Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
Premier épisode.
Tout a commencé le lundi de la rentrée.
T'en prends le temps de terminer. T'es pas à 3 minutes.
J'avais la trouille et Vincent essayait de me rassurer.
T'imagines s'ils s'aperçoivent que j'en sais à peine plus qu'eux dès le premier cours ?
Bouge calme. Tu les as eu en TD, tu vois bien le gouffre de leur ignorance.
170 étudiants en amphi, c'est pas la même chose que 40 en télé.
Ils sont plus gentils, disons mon l'air. Les méchants écoutent pas, de toute façon, ils jouent sur leur téléphone.
Et s'il y en a un qui demande devant tout le monde de quand date tel ou tel truc, et que je sais pas?
Alors là, je vais te livrer un secret.
Ouais.
Quand tu sais pas, tu dis une phrase très précise.
Quoi?
T'es prête? Tu dis je sais pas, je dirai ça la prochaine fois.
Super. T'as pas autre chose?
Ils respectent ça quand on avoue notre ignorance. De toute façon, si tu essaies de biaiser, ils le sentent et les méchants, ça les réveille.
Ok, allez, je file. Une explication.
Et le mug, il se nettoie tout seul, le mug?
Je m'en occupe ce soir.
Bah voyons. Appelle-moi quand tu sors pour me raconter ton supplice.
Je dois voir Luc après mon cours. Si je me suis pas enfui en mode poisie.
Où que tu ailles, je te retrouverai, Laura. Tu m'as pas encore filé ta part du loyer, c'est ta semaine de course.
T'as l'amitié vénale. C'est moche.
À ce moment-là, je savais pas pour Willy Nasser. Je l'avais déjà eu en TD l'année précédente. Un étudiant sympa, mais collant. Je pouvais pas imaginer qu'il en était là,
oui.
À squatter la chambre de Sabine chez sa logeuse.
Oui. Mmh. Allez. Mmh. Allez, grouille. Willy, debout. Allez, dépêche-toi.
Encore 5 minutes.
Allez, dépêche-toi. Après, tu risques de croiser la mère Gali. Elle prend son petit-déj à la nuit.
Ouais. T'inquiète pas. Je l'aurai au charme oriental.
Elle va croire qu'on couche ensemble, en plus. Et c'est le genre de femme à qui rien que l'idée du sexe fait retrousser le nez.
Ah bah elle a raison, c'est dégoûtant.
Je me ferai virer, je mettrai des semaines à retrouver une piole à ce prix-là. Et je louperai mon premier semestre.
C'est trop de responsabilité. Hein. Je vais prendre ma douche.
Non, c'est pas possible.
Oh mais chut, je rigole, Sabine. Allez, je me casse. On se voit tout à l'heure en amphi.
Je me suis pas trop mal tirée de ce premier cours. Enfin, autant qu'on puisse bien s'en tirer quand on a 170 étudiants en amphi.
Si on récapitule, vous voyez, on peut dire que les catégories de genre, ce ne sont pas seulement des facteurs qui permettent d'expliquer des différences dans la société. Sur un plan plus fondamental, on peut dire que c'est vraiment un des principaux outils avec lesquels nous pensons le monde social, le plus souvent inconsciemment. Bon, je vois à vos têtes qu'il est l'heure. On continuera au prochain cours.
J'ai compris 30%, j'ai l'impression d'être débile.
Sabine, Sabine. Tu crois pas que si tu matais un peu moins les mecs, tu pourrais monter à 40?
Va savoir, mon Jérôme. Et Willy, où tu vas?
Allez-y,
tu viens pas au café?
Non, non, mais il faut aller.
Laisse tomber, il va essayer de choper la prof.
Ça vient à l'obsession, son truc, là, non? L'année dernière, déjà, il disait à tout le monde qu'elle lui envoyait des signaux.
Dans ses rêves, ouais.
Madame, madame, Willy Nasser, je vous avais en TD l'année dernière, vous souvenez-moi?
Monsieur Nasser, comment pourrais-je vous avoir oublié?
Je vous ai pas oublié, non plus. Même cet été, avec les filles et tout partout, je vous ai pas oublié.
Vous aviez une question?
Non. Je voulais vous dire que je pourrais pas venir à chaque cours. Enfin, celui du lundi matin, je peux, y a pas de souci, mais le jeudi soir, je peux pas.
Bon, c'est dommage.
C'est mon patron qui fixe le planning pour l'année, je peux rien faire.
Vous travaillez combien d'heures ?
20 heures par semaine, je livre des pizzas. Ah, tenez, je vous donne la carte. Et vous me demandez quand vous commandez la pizza, hein ? C'est moi qui vous l'apporte, je suis le plus rapide. Et le plus sympa, et plus beau aussi d'ailleurs.
J'en doute pas une seconde.
Cette conversation avec Vincent au téléphone, je crois bien que c'est le dernier souvenir que j'ai d'avant. Il devait être 11h15 passé.
Ouais Vincent, ça va ? Je suis à la bourre là, je dois voir Luc dans 2 minutes.
Alors ça a été ton cours ?
Ouais, j'avais 30 élèves assis sur les marches et le vidéoprojecteur en panne. 3 jours à préparer mon prédit pour rien. Je suis allée au planning pour me plaindre, ils peuvent rien faire. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Bienvenue sur le Titanic.
T'avais quel amphi ?
Le C.
Le B, il est un peu plus grand. Essaie de voir qui l'occupe sur ton créneau et s'il a moins d'étudiants, entame les tractations. C'est tout ce que je peux te conseiller.
Les tractations ?
Café, déjeuner. Ça peut suffire si c'est un ponte et que tu laisses faire montre de son infinie supériorité intellectuelle sur toi sans broncher. Mais si c'est un jeune, il sera moins facile à duper. Ça sera sous-traitance de correction, surveillance d'examen et peut-être même les deux.
Formidable.
Bon, sinon je voulais t'informer que j'allais jeter le frigo.
Non, ça va pas, il marche très bien ce frigo.
Il y a des bêtes dans ton houmous. Des bêtes qui bougent.
Oh merde, c'est vrai. Bon, je nettoie mon étage ce soir, promis.
Je viens d'emprunter un diable à l'épicier d'en bas. J'ai même appelé les encombrants. Un bon citoyen soucieux de ne pas dégrader l'environnement urbain.
Vincent, tu fais chier, hein. Je sais bien que t'es pas à 300 euros près, mais moi si.
T'inquiète pas, l'égalitarisme va bientôt triompher vu qu'on va mourir tous les deux d'une toxi-infection fulgurante.
Ouais, c'est ça. Bon, on en reparlera quand je serai dans mon cercueil Ikea pendant que tu te la couleras douce dans du chêne massif. J'arrive au bureau de Luc, là, je te laisse.
Attends, Laura.
Quoi ?
Laura, attends, je voulais juste...
Luc.
Laura ?
Luc ! Non !
Laura, qu'est-ce qui se passe ?
Luc ! Non !
Laura,
non,
Luc !
Je me rappelle même plus comment je suis arrivée jusqu'au bureau de la présidente. Je crois que j'ai couru comme une folle dans les couloirs. Je sais pas si je pleurais. J'avais le cœur dans la gorge. La présidente, Christine Collat, était en pleine conversation téléphonique.
Non, 9 millions, Robert. Pas 2 millions, 9. Et pour commencer, j'espère que le ministère a prévu des moufles pour les étudiants parce qu'on pourra pas se permettre de chauffer les locaux. Donc pour la commande, vous leur direz que ça fait 13 000 paires. Ensuite, ce sera les fissures, les bâtiments déjà vétustes qui vont se désagréger et qui seront bientôt impropres à recevoir du public. Oups ! 13 000 étudiants en moufle un lundi matin sur le parvis. La télévision va...
Je ne vous ai pas entré, je ne vous ai pas... Mais sortez !
Je suis au téléphone avec le rectorat, sortez immédiatement.
Je viens de trouver Luc, Luc Payron, je viens de le trouver dans son bureau, il y a du sang partout. Une arme, il faut que vous veniez tout de suite.
Luc Payron, de quoi me parlez-vous ?
Il est mort.
Robert, je vous rappelle. Qu'est-ce que vous racontez ? Qui êtes-vous ?
Laura Vanetti, je suis en thèse avec lui, je vous dis qu'il est mort. On avait rendez-vous.
Patricia, appelez-moi le chef de la sécurité qu'il nous rejoigne devant le bureau de Luc Payron. Maintenant !
Oui.
Le sang, l'arme, son corps, la zone sécurisée, les flics, tout disait que Luc était mort. Et moi j'étais là, abasourdi. Persuadé que tout allait rentrer dans l'ordre.
Qu'est-ce que vous avez vu exactement quand vous êtes entré dans ce bureau ?
C'est l'interrogatoire dans la salle des profs qui m'a fait réaliser.
J'ai vu son corps. Il était effondré sur sa table. J'ai vu ses yeux. Il avait le visage tourné vers la porte et... J'ai pas vu l'arme tout de suite.
Vous avez pénétré dans la pièce ? Vous êtes allé jusqu'au bureau ? Vous avez fait quoi ?
J'ai cru que peut-être il était... Je l'ai secoué. C'est après que j'ai vu qu'il y avait du sang partout et que... Excusez-moi. J'arrive pas à croire qu'il est puce.
Vous avez pensé quoi ? Qu'on l'avait tué ?
Je sais pas ce que j'ai pensé. Une balle dans la tête ? C'est tellement loin de tout ce qu'il est. De tout ce qu'il était. Et juste avant un rendez-vous avec moi, non. Il aurait jamais infligé ça à qui que ce soit, c'est pas possible.
Vous aviez souvent rendez-vous avec lui ?
Oui. Toutes les 3 semaines à peu près.
En quoi consistaient ces rendez-vous ?
C'était des séances de travail. Je lui envoyais des pages de ma thèse quelques jours avant. Il les lisait et on en discutait ensemble.
Toujours dans son bureau?
Parfois aussi dans un café. Ou chez lui.
Il vous invitait chez lui?
Oui.
C'est normal, ça? Je veux dire, ça se fait?
Bien sûr que ça se fait.
Quand vous alliez chez lui, qu'est-ce qui se passait?
La même chose qu'ici. On parlait de ma thèse. Un peu de ses travaux en cours aussi.
C'est tout?
Oui.
Jamais de dérapage?
Mais vous savez pas de quoi vous parlez? J'ai attendu des années pour trouver quelqu'un à respecter, pour que quelqu'un me dise que la recherche c'était fait pour moi, que je devais m'accrocher. Et c'était lui. Il m'a sauvée, c'est tout. Ça vous échappe peut-être, mais au moins gardez vos insinuations pour vous.
Du côté des étudiants, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Sur le parvis,
du sang partout.
Willy et les autres s'en donnaient à cœur joie.
Je te jure, j'étais devant le vigile quand les filles sont arrivées.
Et c'est qui ce prof?
C'est Payron, le prof de socio des religions.
Ah, je connais pas.
Mais t'es en socio, tu connais pas Payron? Je comprends mieux pourquoi ça fait 4 ans que t'es en L2, toi.
Sérieux, c'est une star, ce gars. De vivant en France, il y a Boltanski, il y a Latour et il y a lui, quoi.
Mais oui.
Ouais, enfin maintenant, de vivant, ils sont plus que deux.
T'as vraiment vu quelque chose ou tu nous balades avec des conneries?
Tu m'étonnes que je l'ai vu, il était à poil.
N'importe quoi.
Et je vous jure, sur la vie de mon frère.
T'es fils unique, tu crains, Jérôme. Il vient de mourir, franchement, ça se fait pas.
C'est louche, je vous le dis, il a été zigouillé. À poil et zigouillé, ça sent le truc tordu.
T'es dégueu. Moi, je l'aimais bien, ce prof. Il tuait en cours, une feuille de notes, il tenait 2 heures. Non, mais c'est le seul CM où j'étais scotché l'année dernière.
On dirait que c'était Ibra, votre gars.
Ouais, bah le jour où Ibra te fera un cours sur l'automisme, tu me préviendras.
Tu m'étonnes. La ramasse.
Mon interrogatoire n'était que le premier d'une longue série. Juste après moi, ça a été le tour de Christine Collat.
La dernière fois que vous avez vu Luc Payron, il vous a semblé déprimé. Je veux dire, plus que la moyenne.
Il ne manquait aucun cours. Il publiait. Non, je ne crois pas.
Des problèmes avec les étudiants?
Pas à ma connaissance. Il était très respecté.
Et sa vie privée?
Vous savez, quand on assure la présidence d'une université, on passe plus de temps avec le rectorat et le ministère qu'à s'occuper de la vie privée des professeurs.
Des maîtresses?
Je viens de vous répondre.
Des jalousies professionnelles?
Capitaine, vous êtes dans une université peuplée d'universitaires. La jalousie fait partie intégrante du métier. C'est l'un de ses fondements.
Bon, et donc qui jalousait le professeur Payron?
Tout le monde. Les professeurs moins reconnus qui ruminaient leur rancune. Les maîtres de conférences qui attendaient en rongeant le parquet qu'un poste de professeur se libère, qui trouvaient qu'ils auraient fait mieux que Payron dans tel colloque, tel article, tel ouvrage. Les biatos.
Les quoi?
Les biatos. Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, personnels sociaux et de santé.
Hein? Mais pourquoi?
C'est l'Inde ici. Les biatos, ce sont nos intouchables. Et un professeur comme Payron, c'est un brahmane.
Pense à quelqu'un en particulier?
Non. Luc était envié, jalousé, mais pas détesté. En tout cas, pas que je sache. De toute façon, il s'agit d'un suicide, non? Donc de quoi est-on en train de parler, là?
Sur le parvis, ça continuait. Je pense que Luc aurait aimé entendre ça.
L'été dernier, j'étais à New York.
Les étudiants parlaient de lui comme ça.
De Payron. Je me suis dit, allez, on va soutenir la sociologie française. D'abord, j'ai galéré pour rentrer. Et ensuite, à la fin, mais les gens, ils étaient debout pour applaudir. C'était Bercy, le truc.
Ah ouais. Ok, je suis à la ramasse, mais il racontait quoi pour être une star comme ça, votre Payron?
Oh, tu veux qu'on te fasse Durkheim et Weber en passant?
Ou Bourdieu pour les nuls, petit A l'habitus, et ben c'est quand t'as l'habitude.
Un petit B, le champ, c'est là où tu galopes.
Il étudiait la laïcité au départ. Okay. Il a d'abord fait plein d'enquêtes, mais maintenant il faisait plus dans la théorie macro. Mmh. Bon, je te passe les détails, mais il a montré que la laïcité, ou la sécularisation plutôt... Ah, rien, laisse tomber. La laïcité, donc, c'est un truc qui existait avant que le mot apparaisse. Ouais. Un concept de libération. Mmh. Par rapport au roi avec 1789, et puis aux religions avec 1905. Et sa théorie, c'est que maintenant, on est dans une phase où l'enjeu de cette pensée, c'est la laïcité financière.
Ouais, maintenant, les vrais curés, c'est les traders, les financiers, les banquiers. La première religion à dégommer, c'est celle-là.
Mais ouais.
Ouais, enfin, il y en a une ou deux autres, quand même. Hein.
Mais c'est pas de la sociologie, ça, c'est de la politique.
Oh là là, mais d'où tu sors, toi? Faut tout reprendre depuis le début, là. Ah, mais tout. Hé, mec, tu nous parles de foot, on te parle de...
Je suis rentrée chez moi en miettes. Vincent était là.
comme s'il m'attendait derrière la porte. Ce soir-là, j'ai béni la colocation.
Désolé. Je crois qu'on a besoin d'un verre.
Tu sais...
Quoi ?
Il était encore chaud. Je l'ai secoué. C'est pas un réflexe. Il était encore chaud.
Pas de détails macabres avant deux vodkas. C'est la règle. J'ai appris ça d'une très belle bulgare qui m'a confondu longtemps avec James Bond.
C'est con. Pas si c'est une bonne idée la troisième là.
Les verres ça marche par nombre impair.
Oh. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu dis rien?
Écoute, que t'aies des doutes, que tu comprennes pas, que tu cherches une explication, c'est normal. C'est toujours comme ça avec les suicides. Mais fais gaffe à pas te raconter de films. Pour finir, c'est toujours des histoires entre soi et soi.
Si Luc avait voulu se suicider, il aurait fini sa part des articles collectifs. Il aurait laissé des instructions précises sur ce qu'on devait faire de ses manuscrits. Il m'aurait dit, et il aurait dit à ses autres thésards vers qui se tourner. Il nous aurait pas laissé en plan comme ça. Puis depuis quand les universitaires ont des flingues?
Peut-être qu'il avait une maladie grave et qu'il a préféré prendre les devants. Peut-être qu'il avait des souvenirs qui ne passaient pas, ça arrive. Des blessures d'enfance qui se referment jamais, ça arrive tous les jours, à n'importe qui, universitaire ou pas. On n'en sait rien, Laura. Et le plus probable, c'est qu'on n'en saura jamais rien.
La vie continue, c'est ça?
Je t'en prie.
Je sais pas ce que je vais devenir.
Tu vas devenir exactement ce pour quoi il t'a formé et soutenu. Tu vas devenir maître de conf à la fac ou chercheuse au CNRS. Tu vas lire, tu vas travailler, tu vas écrire de grandes choses.
Quand il m'a accueilli en master, tu te souviens? Jeannonnet du Bourdieu comme un bon petit moine soldat. Oh, ça te rendait dingue. Il m'a porté à bout de bras. Pour deux pages dans un papier, deux pages qui lui ont semblé avoir un petit quelque chose, comme il dit. Comme il disait. Il m'a fait confiance. Il m'a fait bouffer des bouquins indéchiffrables jusqu'à ce que je comprenne.
Et ça, c'est acquis.
Ouais, c'est fragile aussi. Hein.
Écoute, t'as plus 23 ans. Tu n'as plus besoin d'un mentor.
Je voudrais bien faire la maline et te dire que t'as raison, mais j'en suis pas si sûre, tu vois.
Laura.
Ouais.
Ça va aller.
Ouais, il paraît.
Ce soir-là, Christine Collat, la présidente de l'université, n'avait pas sommeil. D'habitude, le silence de son quartier aux alentours de 23h30 la rassurait. Mais pas là.
Allô? Un instant, je vous la passe.
Qui est-ce?
François Boiron, de l'Élysée.
Boiron? Qu'est-ce qu'elle me veut? Bonsoir François, comment allez-vous?
C'est à vous qu'il faut demander ça. J'ai appris le drame. Je tenais à vous présenter personnellement mes condoléances.
Je vous remercie, j'y suis très sensible. C'est vraiment tragique.
Nos services de police ont-ils été à la hauteur?
Ce n'est jamais anodin au sein d'une université. Mais oui, tout s'est passé dans un calme relatif.
Personne ne pouvait s'attendre à ce suicide, j'imagine.
J'aimerais déjà être sûre que c'en est un. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à y croire.
Vous êtes sous le choc, c'est normal.
Je connaissais Luc Bayron, et vraiment, je ne crois
pas... On n'a jamais envie de penser que ceux qu'on connaît peuvent aller jusque-là. Ce sont des choses horriblement fréquentes, hélas.
Bien sûr.
Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, Christine. Je vous rappelle prochainement.
Je vous remercie. Bonsoir, François.
Qu'est-ce qu'il te voulait ?
Me présenter ses condoléances.
Mais pourquoi l'Élysée, c'est bizarre, hein?
Je ne comprends pas.
L'Apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. Premier épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fourny, Guillaume Marquet, Slimane Yevsa, Hélène Alexandridis, Philippe Pétieu, Jean-Claude Durand, Christina Crévillère, Fleur Bablet, Bastien Bouillon, Anton Tesquet, Jean-Jacques Vanier, Renaud Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
23 octobre. Il est 1h du matin et je n'arriverai pas à dormir cette nuit. Sarah est partie quelques minutes avant minuit. Elle me jure qu'au-delà, elle se transforme en grenouille. Je lui réponds qu'elle serait sûrement mon genre de batracien. Elle sourit et referme la porte derrière elle. Et me voilà après, les mains vides, comme un con dans le salon. J'ouvre un livre, mais ça ne prend pas toujours. Ce soir, j'ai lu, mais je pensais trop. Dans ces moments-là, la pensée, ma pensée, m'empêche de suivre celle d'un autre. Je lis et dans le même mouvement, mon cerveau se met à fabriquer des idées et des questions. Je ne suis plus au texte comme on doit l'être, avec une attention sans détour, avec la même concentration que celle de l'enfant traçant ses premières lettres. J'ai parfois l'impression d'entendre mes connexions neuronales grésiller. Soudain, j'établis un lien entre deux éléments qui n'en avaient pas auparavant, et j'ai le sentiment de comprendre au sens quasi étymologique, de prendre avec moi sous le bras un nouvel objet comme éclos d'un œuf. Et la question surgit presque simultanément à l'irruption de ce nouvel objet. Comment le transmettre? Je voudrais des idées ovales comme un ballon de rugby. C'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Sans doute pas grand-chose. Mais j'aime cette idée. L'idée que transmettre, c'est passer au sens physique, sportif du terme. Allez, hop, attrape. Et ne garde pas ça pour toi, passe à ton tour. Et regardez comme c'est beau. Comme en se passant le ballon, on avance tous collectivement. Et pour finir, essaie. Décidément, cette métaphore me plaît. Je devrais la faire breveter. Bref, mon cerveau a commencé à produire des connexions en pagaille ce soir. Et je me suis dit qu'écrire ici me permettrait d'être à autre chose pendant quelques minutes et de voir ensuite lesquelles sont encore là. Lesquelles méritent d'être travaillées pour leur donner la forme la plus aérienne possible, qui permet ensuite de les lancer aux étudiants. C'est à chaque fois un émerveillement pour moi de constater à quel point la pensée engendre la pensée, l'effet surgénérateur du langage et des idées. La transmission, c'est une autre paire de manches. Plus de 20 ans que j'enseigne et je n'ai pas résolu ce mystère. Qu'est-ce qu'une belle passe? Certains étudiants me donnent le vertige tant ils reçoivent un objet différent de celui que je leur destinais. D'autres, au contraire, l'attrapent au vol avec tant de rapidité et de délicatesse en même temps qu'elle arrive intacte entre leurs mains où ils peuvent commencer à l'observer sous toutes ses coutures et à réfléchir à ce qu'ils vont en faire. La jeter, la conserver, la peindre ou la pétrir, peut-être la passer à leur tour. Tout cela n'a rien à voir avec une compétence strictement académique. Retenir n'est évidemment pas comprendre. J'ai eu quelques déceptions sur lesquelles j'ai déjà écrit ici. Florent, bien sûr, qui regarde les idées comme des oiseaux exotiques, mais qui reste comme transi par leur plumage, un visiteur de zoo devant la volière. Je me pose encore des questions sur Laura. Je l'ai choisie. Son papier à Toulouse m'avait laissé un peu pantois, beaucoup plus que ce que je lui en ai dit plus tard. Mais je ne sais pas ce qu'elle reçoit de notre travail en commun. Je ne sais pas si je l'aide véritablement à avancer plus rapidement, avec davantage de joie et de sérénité, que si elle faisait son chemin seule. Étrange doctorante que je peine encore à décoder.